Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B qui commence. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour des associations bretonnes qui réagissent au plan de lutte interministériel contre le harcèlement scolaire, les reportages et interviews de radios partenaires ailleurs en Bretagne pour vous informer sur les luttes environnementales dans la région, de la musique, ce sera une nouveauté, et puis deux recommandations pour le week-end, une foire et des concerts pour la bonne cause. Bienvenue dans l'Arène. Allez, comme chaque jour, l'émission commence avec une info, le plus souvent locale, que je sélectionne pour vous dans l'océan d'informations qui nous entoure. Aujourd'hui, on parle du plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire qui fait réagir des associations bretonnes. Alors ce plan, il a été dévoilé mercredi par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en réaction au décès de l'INSEE au mois de juin dans le Pas-de-Calais et de Nicolas au mois de septembre, cette fois en Île-de-France. Parmi les principales annonces de ce plan, il y aura des cours d'empathie, il y a du boulot, la possibilité de confisquer le téléphone portable des harceleurs, la mise en place de brigades dédiées dans chaque rectorat, un numéro unique pour signaler des faits de harcèlement, à savoir le 30-18. Durant l'été, un décret avait aussi déjà été publié pour pouvoir changer l'élève harceleur d'établissement à partir de cette rentrée. Réaction de deux associations en partie bretonnes à ces annonces. D'abord avec l'association Marcel Mans, cofondée entre autres par la maman de Christopher. Christopher, c'est ce jeune qui s'est donné la mort en 2017 suite à 4 ans de harcèlement à Janzé au sud de Rennes. Sandrine, la maman de Christopher, confie aux journalistes de France 3 Bretagne que rien n'a changé dans les écoles depuis et ne croit pas aux dernières annonces du gouvernement, notamment sur le sujet des téléphones. Autre retour, celui d'Ewan Delaunay, ce costar-mauricain qui a lui-même souffert de harcèlement entre ses 6 et ses 12 ans, préside l'association France Jeunesse Harcèlement, une structure qui intervient auprès des jeunes pour leur parler harcèlement, notamment en ligne. Et apparemment, ils sont débordés. Il était lui présent à Matignon lors de l'annonce du plan interministériel et il se montre lui aussi sceptique. Je le cite, « Nous, ce que l'on souhaite, c'est que tous les professeurs principaux et délégués de classe soient formés à la lutte contre le harcèlement scolaire et qu'ensuite tous les élèves soient informés. Autre demande, que les parents puissent être alertés de l'inscription de leur enfant sur les réseaux sociaux. Ces associations, avec d'autres, elles s'estiment enfin peu entendues lorsqu'elles remontent des faits de harcèlement auprès du rectorat de Rennes, ce dernier s'appuyant uniquement sur le signalement des familles pour lancer des procédures. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on poursuit avec un temps de mise en lumière du travail de collègues journalistes et animateurs dans d'autres radios associatives en Bretagne. C'est un nouveau format que je lance. Aujourd'hui, on va parler eau, logement et apiculture. Et oui, cette année, chaque dernier vendredi du mois, l'émission d'info locale se concentre sur les luttes environnementales et sociales en Bretagne. Une façon d'élargir un peu notre champ de vision au-delà des combats menés en région rennaise. Aujourd'hui, vous allez entendre des extraits de sujets réalisés par des animateurs et journalistes d'autres radios de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Alors on prend sa carte de la région, on prend une petite punaise qu'on va planter sur la commune d'Arzal. On est en Morbihan. Sur cette commune est installé un barrage qui sert entre autres à fournir de l'eau potable entre Saint-Nazaire, Auray et Rennes, puisque ce lieu est stratégique à la frontière entre 3 départements, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. C'est Mathieu Perret, animateur chez Plume FM, une radio qui est installée entre Serran dans le 56 et Redon dans le 35, qui nous envoie l'extrait d'interview qui va suivre, tiré de l'émission « J'irai m'instruire chez vous ». Cette émission a été enregistrée hors les murs, samedi 23 septembre, du côté de Saint-Nicolas-de-Redon en Loire-Atlantique. Et la question posée, c'est la suivante. Et si le barrage d'Arzal n'existait pas ?
Initialement prévu pour lutter contre les inondations du pays de Redon ainsi que pour réaliser l'assainissement de 10 000 hectares de marais, Le barrage d'Arzal a très vite connu une seconde vocation, l'alimentation en eau potable de toute la région, à savoir Saint-Nazaire, ainsi que la presqu'île Guérandaise et celle de Ruisse. Les pourparlers sont même en cours actuellement pour fournir de cette eau potable à la région rennaise. C'est M. Dudrenet, président du Conseil Général de Loire-Atlantique, qui est également le président de cette institution interdépartementale.
Monsieur Dudrenet, quels sont les trois objectifs principaux de ce barrage d'Arzal ?
Le premier, la lutte contre les inondations et la protection des lieux habités, en même temps que la mise en valeur des marais. Deuxièmement, la navigation permettant d'amener des matières pondéreuses à Redon, de développer dans la mesure du possible les industries de Redon et la création de nouveaux emplois. Troisièmement, avec la station du Drézet, l'alimentation en eau potable de toute la région de Saint-Nazaire, la Baule et le Morbihan. Ce sont les trois principaux objectifs.
Mais vous m'avez dit également que la création d'un plan d'eau aussi vaste pourrait favoriser la navigation de plaisance.
Oui, c'est également un objectif qui est déjà atteint. Le plan d'eau qui représente 35 km avec une largeur moyenne de 200 mètres.
Voilà, nous étions en 1971, juste après la mise en service du barrage d'Arzal. Mais voilà, nous revenons en 2023 en compagnie de Anne et de ses invités. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour à tous. Ravie d'animer cette première édition de J'irai m'instruire chez vous. Et je ne suis pas seule puisque je suis avec trois invités. Yves Lebailly, c'est dans l'ordre alphabétique que je présente les invités. Yves Lebailly, professeur agrégé de géographie, ancien enseignant d'un master professionnel d'aménagement maritime et littoral, président de l'association Les Géographes de Bretagne depuis 2009, président du collectif d'associations Bretagne Majeure, auteur de différents ouvrages, dont Défi pour la Bretagne, un nécessaire contrat social. Bon, c'est une présentation rapide. Deuxième invitée, Anne Lenormand, qui est coordinatrice Natura 2000 et chargée de mission Milieux humides dans le service Milieux aquatiques et biodiversité d'Eau-et-Vilaine. Eau-et-Vilaine, c'est un établissement public territorial du bassin de Vilaine, expert gestionnaire, coordinateur et ambassadeur de l'eau sur le bassin de Vilaine. Troisième invité, je vous promets que je leur donne la parole tout de suite pour qu'ils puissent vous dire bonjour. Didier Massé, pêcheur professionnel depuis 35 ans sur la Loire, les marais de Mazerolles et la Vilaine. Donc un métier que pratiquaient déjà son grand-père et son arrière-grand-père depuis 2017. Il est président national de l'association des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux en eau douce, après avoir été président départemental. Est-ce que je vous ai bien présenté les uns et les autres ?
À quelques nuances près, géographe de Bretagne pour le moment est en stand-by, mais c'est tout.
D'accord, merci Yves Lebailly. Alors, avant de rappeler le thème de cette table ronde qui porte le titre de « Et si le barrage d'Arzal n'existait pas ?», nous sommes installés au cœur des Rencontres du Marais, un événement co-organisé par les hydrophiles et Terre-Lieux qui est l'occasion de présenter l'Atlas des usages des marais réalisé pendant plusieurs mois par Sophia et Mado qui vous attendent pour la carte au parti pour continuer ce travail. Si on s'imagine que le barrage d'Arzal n'a jamais été construit, si on imagine ça, comment est-ce que vous décririez le paysage ? Anne Lenormand.
J'imagine des nuées d'oiseaux, des petits passereaux, vous savez, le type chevalier qui viennent piéter là sur les zones de vasières. Alors, on est par exemple à marée basse. Marée basse, ça veut dire qu'on n'a quasiment pas d'eau sur la Vilaine comparé à ce qu'on a là aujourd'hui. Mais par contre, on a plein de petits oiseaux qui viennent se nourrir aux abords et on a des grandes prairies très, beaucoup plus nuancé qu'aujourd'hui, enfin avec des structures de végétation beaucoup plus variées que ce qu'on a aujourd'hui, beaucoup d'oiseaux et puis plein de poissons qui viennent évidemment.
Donc une faune bien
très riche,
bien différente,
très riche
de celle qu'il y a aujourd'hui.
On est d'accord.
Je vois que Didier Massé à côté de vous réagit sur la faune et la flore, enfin la faune.
Surtout sur la faune bien entendu, et en particulier sur le poisson. On aurait des poissons complètement différents, on aurait beaucoup plus de poissons amphialins, beaucoup plus de poissons marins qui pourraient remonter jusque dans le port de Redon pratiquement, bien entendu. Donc ce ne seraient pas du tout les mêmes poissons qu'on a à l'heure actuelle.
Vous auriez plus de travail ?
on aurait plus de travail. Le travail serait complètement différent. On travaillerait avec les marées, comme on le fait à l'heure actuelle sur la Loire. Donc on aurait l'effet marée qui se ferait ressentir jusque par là, quoi. Les méthodes de pêche seraient certainement différentes, oui. Et le poisson recherché serait différent, bien différent même.
Yves Le Bailly, à vous de réagir et d'imaginer, de nous décrire le paysage.
Je ne vais pas décrire tellement le paysage. Je vais dire qu'on serait face à un estuaire qui vivrait normalement dans ses dimensions morphologiques, hydrologiques. Alors, bien sûr, les hommes auraient à s'adapter, ce qu'ils ont toujours su faire dans le temps. Ils n'auraient peut-être pas cette idée de maîtrise totale des mécanismes qui sont d'une complexité énorme. Mais assurément, nous aurions davantage de palus, nous aurions moins de vases. Je reviendrai sur le problème de la vase peut-être ultérieurement. Et là se pose pour moi, plus que de l'hypothèse, se pose véritablement la question de l'existence de ce barrage, dont on va reparler, parce que on peut rêver qu'il ne soit pas là, mais il est là.
Oui. Juste une petite précision à apporter. Si on n'avait pas le barrage d'Arzal, n'oublions pas qu'on avait un barrage quand même estuarien, celui de Redon, 1938, à ma connaissance.
Non, pas celui-là.
Si, là-bas. Si, 38.
Ici.
Et encore avant, il y avait effectivement d'autres barrages historiques, Redon. Et du coup, la zone estuarienne, n'oublions pas qu'historiquement, l'influence de la mer s'opérait jusqu'à Messac. Donc, on a quand même assez tôt, enfin dès le Moyen-Âge, puisque c'est les moines de Redon qui ont commencé à installer un moulin en plein milieu du Bief, et c'est le premier quand même obstacle à la continuité écologique qui a été créé dès le Moyen-Âge. Donc n'oublions pas que l'estuaire historique a été déjà coupé en deux dès cette époque-là. Donc je voulais juste attirer cette attention.
Et on est juste installé un peu à côté de ces premiers barrages dont il n'y a plus vraiment de traces aujourd'hui, à part encore la pile de pierres de l'autre côté de la Vilaine.
C'était une solution apportée justement au problème d'inondation, une des solutions.
Dans l'archive qu'on a entendue tous ensemble, c'est le premier sujet qui est évoqué, la protection des inondations justement. À ce propos, est-ce que vous voulez réagir sur l'efficacité et puis voilà, qu'est-ce qui se passe depuis cette construction du barrage? A-t-on vraiment évité les inondations? Est-ce que ça aurait été pire s'il n'y avait pas le barrage? Yves Le Bailly.
Aborder le point, parce que cette idée de vouloir lutter contre les inondations, c'est très compréhensible de la part des hommes. Maintenant, est-elle très réaliste? Et en tout cas, même si elle a pu être efficace sur certains domaines, notamment dans les remontées des salures des eaux, etc., on peut se poser des questions, parce que s'il avait été vraiment efficace, il n'y aurait pas eu toutes ces inondations en 1995, aux alentours de 2001. Et alors ça pose la question, et puis 14 la dernière fois, je crois, hein, ça pose la question de la pertinence du barrage. Et on voit bien que aujourd'hui la question qui est posée, mais pas que sur la Vilaine ici, mais sur toute la Bretagne, c'est la rétention des eaux de pluie qui s'écoulent très rapidement à la mer et qui ont vu leur vitesse s'accélérer pratiquement par trois entre les années 60 et aujourd'hui. Donc ça pose la question des comportements et des aménagements qui ont pu être faits sur l'ensemble du territoire. Pour prendre l'exemple, dans les années 60, une goutte d'eau qui tombait sur le bassin versant du Haut-Meu, le plus long élément fluvial du système de la Vilaine, eh bien, mettait 8 jours avant d'arriver à la mer. Maintenant, il en met 3. Donc, cette accélération amplifie les crues. Et donc, il faut se poser la question en amont. Comment retient-on l'eau? Surtout que la question de la rétention de l'eau va devenir une question cruciale en matière d'alimentation des populations.
Vous avez ciblé les années 60, vous mettez en cause le remembrement?
Bien sûr, remembrement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la question fondamentale de la reconstitution des haies bocagères, talus majeurs, etc., peut-être pas un bocage aussi dense que précédemment, mais est une question qui se trouve posée à notre société à un moment où les précipitations vont se raréfier et diminuer, on l'estime, à peu près d'un tiers dans les décennies à venir.
Je passe la parole à Anne Lenormand, oui, qui voulait réagir aussi sur la question des inondations.
Merci. Alors, je vous le concède, les phénomènes de crue les plus importants, c'est-à-dire les Q10, Q20, c'est-à-dire qui ont une probabilité sur 10 de se produire, sur 20, sur 30 de se produire, là, le barrage, en effet, a ses limites et n'est plus efficace pour limiter l'amplitude de ces inondations. En revanche, il faut constater, malgré tout, que les phénomènes de crue, on parle bien de statistiques, hein, j'en suis désolée, mais c'est la réalité, une probabilité sur deux, sur trois de se produire, c'est-à-dire les crues les plus fréquentes, là, on constate que l'effet du barrage est efficace.
Extrait d'un échange sur le barrage d'Arzal, réalisé par Mathieu Perret et animé par Anne Guérin. Une émission à écouter dans son intégralité sur le site plumefm.net. Elle dure une heure. Une rediffusion est prévue demain, samedi 30 septembre à 14h, sur les ondes toujours de Plume FM. On reste sur le sujet de l'eau, mais on revient à Rennes. Pour un point sur les victoires judiciaires d'Eau et Rivières de Bretagne, le 15 septembre dernier, j'ai reçu Pauline Pénaubert en studio pour en parler. Elle est chargée de mission politique de l'eau dans cette structure. Les missions de votre structure, elles sont multiples, informer, sensibiliser à la protection de l'eau et de l'environnement, participer aussi lors de mobilisations ou de consultations politiques, agir enfin, notamment devant les tribunaux, et vos actualités, elles sont denses. On va commencer avec un volet un peu judiciaire. Là, l'été, il se termine et vous avez remporté plusieurs victoires devant les tribunaux. D'abord, ça a commencé face à l'Agence régionale de santé il y a quelques mois, on peut en redire un mot?
Oui, le 22 juin, on a fait reconnaître le fait que l'agence de la santé avait tripatouillé les données sur la qualité des eaux baignades, notamment en mettant en place des fermetures préventives de plages. Ces données-là étaient sorties des bilans de la qualité des plages à la fin de l'année et on pense que ça améliorerait les données finales pour 10% des plages. À l'époque.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que y avait notamment les chiffres au moment d'épisodes pluvieux qui forcément peuvent amener des pollutions en traînant des produits vers les plages. Ces données-là d'épisodes pluvieux étaient enlevées des calculs.
C'est ça. Et ça permettait de ne pas avoir les problèmes de très nombreuses plages. On se trouvait même avec des plages qui étaient fermées très régulièrement et qui étaient considérées comme en excellente qualité.
L'Agence régionale de santé a donc été contrainte de revoir ses calculs dans une période de 2 mois et d'intégrer ces chiffres-là pour avoir une vision un peu plus en temps réel et puis des actions pour fermer certaines plages en cas de besoin. Est-ce que ça a eu des conséquences directes sur la baignade durant l'été? J'ai le souvenir très personnel d'une journée dans le golfe du Morbihan où le drapeau violet était sorti avec une qualité de l'eau insuffisante en lien avec de fortes pluies. Est-ce qu'avant cette décision de justice, cette plage elle aurait pu rester ouverte?
Alors non, au contraire, elle aurait été fermée, mais on aurait pourtant eu marqué à la fin de l'année que cette plage était en bonne qualité. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la plage sera toujours fermée, mais ça peut abaisser sa qualité. Et donc, si jamais on abaisse vraiment trop, on est obligé de fermer définitivement la plage. Ça veut dire qu'à un moment, il faut commencer à rechercher les origines des pollutions, qu'elles soient agricoles ou de l'assainissement, qu'il s'agisse d'un assainissement collectif ou individuel.
On reste sur la plage avec un mot sur les algues vertes. L'été a été marqué par la sortie au cinéma d'un film qui a été consacré, dont on a parlé dans l'émission d'information locale. Toujours sur le sujet des algues vertes, Eau et Rivières de Bretagne a là contraint l'État à engager rapidement des mesures plus importantes pour lutter contre les marées vertes. Ça s'est toujours passé au tribunal administratif de Rennes, ça c'était au mois de juillet?
Ça, c'est, ouais, le fin juillet, le 18.
Vous vous êtes appuyé sur quoi pour dire que c'était pas suffisant?
Bah en fait, c'est sur les bilans de ce qui était demandé de mettre en œuvre, parce que notamment, et la Cour des comptes et de nombreux acteurs, Eau et Rivières, en première partie, depuis très longtemps, ont dit quelles sont les solutions qui seront nécessaires d'être mises en œuvre. Et malgré cela, l'État ne les engage jamais, parce que là, cette condamnation est venue en complément d'une même condamnation sur ce programme-là de 2021. Et finalement, ce qui avait été demandé par le juge n'avait pas été mis en œuvre. Donc c'était pour cela qu'on avait été devant le tribunal. Et c'est ça qu'a condamné aujourd'hui le juge en demandant, par contre, là, une mise en œuvre rapide, c'est-à-dire d'ici 4 mois.
Donc 4 mois pour que la préfecture présente un nouveau plan d'action. Ça nous amène au mois de novembre. Est-ce que vous avez soit des éléments sur ce qui va être mis en place, soit des recommandations peut-être à faire sur ce qu'il faudrait faire?
Alors des recommandations, on en a. On les a transmises notamment à l'ADREAL, qui est le service de l'État qui est chargé de cette mise en œuvre-là. Mais on sait d'ores et déjà qu'il y a des forts risques qu'elles ne soient pas écoutées, ces demandes-là.
Quelles sont-elles?
Alors ça va être par exemple d'inclure les baies à vasières, comme on a beaucoup en Morbihan, dans les plans algues vertes. Ça va être de diminuer les taux de nitrate autorisés sur les plans d'épandage. Ça va être d'accompagner les transformations de l'agriculture. Soutenir enfin les agricultures bio et les agricultures agropastorales.
C'est là qu'on peut peut-être dire un mot sur les mesures agro-environnementales qui, je crois, s'inscrivent dans le cadre de la politique agricole commune, politique européenne. Vous et je crois d'autres structures sont inquiètes que des demandes d'agriculteurs soient refusées pour avoir accès à ces mesures-là parce que ça demanderait un budget trop important qui n'a pas été prévu par les autorités.
C'est ça. En fait, alors qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y a 1 milliard d'euros qui va être supplémentaire que les agriculteurs vont recevoir, il n'y aura pas un centime qui sera consacré au EMAEC, alors qu'on sait que c'est un moyen très efficace de changer les systèmes et de protéger l'environnement et d'accompagner les agriculteurs de manière financière en leur donnant un soutien financier sûr.
La dernière victoire, ou presque victoire, d'Eau et Rivière de Bretagne, elle doit être confirmée au cours du mois de septembre et elle concerne là le plan régional de prévention et de gestion des déchets, donc mené, proposé par la région, qui finalement va a priori connaître une annulation partielle. Vous, ce que vous regrettez, c'est que ça fait 3 ans de perdu, parce qu'il a fallu du temps pour l'élaborer, vous le jugiez insuffisant. On peut peut-être dire un mot sur le juriste, il y a un juriste chez Eau et Rivière de Bretagne, est-ce que c'est à lui qu'on doit toutes ces victoires?
Alors on a 2 officiellement à Haute-Rivière maintenant, monsieur Brieux-Leroc et monsieur Thomas Tellier. Et alors c'est à eux, mais c'est surtout à nos bénévoles. Par exemple, sur la question des eaux de baignade, c'était les bénévoles qui ont constaté ce paradoxe sur les plages sont tout le temps fermées, elles sont d'excellente qualité. Donc ils ont cherché pendant des mois, ils ont demandé les informations à l'ARS. Bah, c'est pareil pour les plans de gestion des déchets. Les adhérents, ils sont documentés sur ce que c'est ce plan. Ils ont dit, bah, c'est ça qu'il faudra qu'on mette en œuvre. Ils ont argumenté pourquoi pendant des mois, pendant les multiples réunions de la région sur la mise en œuvre de ce projet. Et à la fin, à chaque fois, on voyait que nos demandes ne sont jamais écoutées. Donc c'est vraiment un travail de collectif de longue haleine qui fait qu'aujourd'hui on arrive à ce résultat-là.
Et alors comment est-ce que vous les vivez, ces victoires successives là, qui quand même s'enchaînent? Il y a de la fierté, je ne sais pas comment vous le percevez.
Il y a une réelle satisfaction de voir que nos arguments sont écoutés par la justice et que oui, en effet, c'est constaté, notre État, notre gouvernement, la région ne font pas les efforts nécessaires pour le changement d'environnement. Par contre, c'est insatisfaisant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les changements qui seraient nécessaires. On pourrait, on connaît les solutions à mettre en œuvre, elles sont faisables financièrement et humainement, elles me permettraient d'améliorer la condition de vie des paysans, et pourtant on se refuse de se donner cette ambition-là.
Thank you. Vous écoutez Canal B à l'instant, le morceau Coral Reef, interprété par Suzanne Siani et Jonathan Fitoussi. Coral Reef pour barrière de corail, hein, si je ne me trompe pas. C'était une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur ici à Canal B, et retrouvée sur un album Golden Apples of the Sun, qui sort le 6 octobre prochain chez Oblique et Atmosphérique. 8 titres, principalement enregistrés en Californie, face à la mer, paraît-il, par Suzanne Siani, pionnière américaine des musiques électroniques, en collaboration avec Jonathan Fitoussi, lui compositeur français. Après cette pause musicale, retour à notre émission spéciale lutte environnementale en Bretagne. Ce sera chaque dernier vendredi du mois en partenariat avec des radios de la Corlab, coordination des radios locales et associatives de Bretagne. On reprend sa carte de Bretagne et on prend la route vers Comana, une commune du parc naturel régional d'Armorique en Finistère. Et c'est Véronique Museau, productrice radio chez Radio Évasion, basée au Fou, qui nous envoie le reportage suivant. Une rencontre avec l'association Hameau Léger, qui se trouve avoir une antenne en Bretagne depuis 2020.
Même en plein milieu des monts d'Arrée, ou peut-être davantage à cet endroit, on innove, on imagine le futur et on mène des expérimentations. C'est ce qui s'est passé cet été 2023 à Comana, et ce n'est que le début d'un projet qui va continuer. Il s'agit d'habitats, de logements, mais vraiment différents de nos bons vieux lotissements. 4 petites maisons en bois. Elles sont restées 2 mois sur un agréable terrain verdoyant à l'entrée de la commune. C'est ce qu'on appelle un habitat léger. Et c'est Maude Delacroix, la coordinatrice du projet de Comana pour l'association Hameau Léger, qui va nous expliquer.
Il n'y a pas de définition réglementaire. Dans l'association, on parle même plutôt d'habitat réversible, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la caractéristique de pouvoir conserver le sol en l'état. Et donc de pouvoir partir. Donc soit c'est de l'habitat mobile, transportable, comme avec une grue, démontable ou biodégradable.
Ah, biodégradable, ça pourrait être quoi par exemple ?
Une maison en terre paille, qui du coup ne sera pas remontable avec les mêmes matériaux, mais qui ne laissera pas de traces sur le terrain à l'issue de son usage.
Et sinon, qu'est-ce que ça peut être un habitat léger ? Peut-être pour décrire celles qui sont là par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme type de maison, de petite maison ?
Il y en a une très très grande diversité. Aujourd'hui, on a commencé à essayer de faire un catalogue, surtout qu'il y a toujours des nouvelles inventions. Mais on a très couramment des habitats en bois qui vont être montables et démontables avec différentes formes. On retrouve souvent des formes rondes qui sont parfois inspirées de la yourte. Il y a aussi des habitats en toile, du coup. Donc on retrouve le dôme, mais aussi d'autres habitats plus polygonaux. Et après, on a la maison en A, qui est une forme architecturale très facile à monter, à démonter et à concevoir. Et voilà, ici sur ce terrain, on a 2 autres habitats qui sont plus atypiques. On a été chercher la verticalité pour limiter l'impact au sol. Donc on est sur du 3 par 3, soit 9 mètres carrés au sol. Et un autre qui a une forme, on appelle ça le module 4, qui monte en 4 pans de mur, très facile à monter, et qui est aussi, avec une forme architecturale plus atypique, faible en matériaux recyclés. Donc c'est aussi l'opportunité de la récupération d'une toiture d'école qui fait qu'il a cette allure-là.
C'est quand même confortable, ces maisons ?
On peut trouver tout le confort d'un habitat moderne. Après, ça dépend le choix des habitants dans leur conception. Mais ils sont isolés, vitrés pour avoir de la lumière, équipés aux souhaits des habitants dedans. Ouais.
Alors ce type d'habitat, on a le droit maintenant de l'installer avec l'accord, j'imagine, local de la collectivité concernée, mais c'est autorisé maintenant.
Il y a un cadre réglementaire spécifique qui a été créé par la loi Allure en 2015. Avant, on avait le droit de les installer, mais c'était le cadre commun d'une maison normale qui s'appliquait, donc des lourdeurs un peu administratives. Aujourd'hui, on s'inscrit dans le cadre des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs usagers. Et du coup, la démontabilité est prévue dans ce cadre-là et permet d'alléger les formalités. On ne fait plus forcément un permis de construire, mais on peut passer par une déclaration préalable si la surface est toute petite. Et s'il y a plusieurs habitats, on peut passer par un permis d'aménager.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui en France vivent dans ce type d'habitat ?
Alors je vais botter en touche. On a des chiffres, mais je les ai pas en tête. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent en habitat léger, dont beaucoup en situation d'irrégularité, parce que ça reste très marginal et difficile d'obtenir des autorisations. La loi Allure, qui a pourtant 8 ans, est encore très méconnue.
Mais à Comana, on connaît, car l'équipe municipale avait bien l'intention de s'emparer de cette question d'un habitat compatible avec la préservation de la planète. Patricia Quéré, la première adjointe, et Denis Godec, conseiller municipal, ont fait visiter tout l'été ce prototype de hameau léger qui a été installé dans le futur hameau qui lui sera pérenne au lieu dit Le Douric. Une opération destinée justement à faire connaître ce mode d'habitat.
La commune est quand même au pied des Monts d'Arrée, donc on a une philosophie un petit peu différente peut-être des autres espaces, un peu alternative peut-être. Et donc on voulait avoir une façon de vivre un peu différente dans la sobriété, autant financière qu'au niveau des matériaux, au niveau du vivre ensemble, proposer un projet différent de ce qui se fait ailleurs.
Et quels seraient les intérêts sinon ?
Une volonté d'attirer une nouvelle population et des personnes qui pourraient dynamiser la commune. Par exemple, un des futurs habitants serait intéressé par l'achat du restaurant La Boule d'Or qui vient de fermer. Donc pour la commune, c'est intéressant. On n'a plus ni restaurant, ni bar, ni... donc ça manque pour la vie de la commune.
C'est quoi le profil des gens qui sont attirés par les hameaux légers, en tout cas de votre expérience ?
C'est comme des gens qui ont un projet de vie comme alternatif, hein, avec comme une sobriété très importante en termes financiers, en termes d'impact sur l'environnement, voilà quoi.
Et beaucoup de personnes qui sont intéressées ont quand même un niveau Bac plus 5, ou énormément de gens quand même, ouais, de ce niveau-là. Ouais.
Et ils sont plus jeunes ou pas spécialement ?
Ils sont jeunes, la trentaine. La grande partie des personnes intéressées ont la trentaine.
Donc stratégique pour une commune comme Comana. Ben ouais. Comment ça s'est passé cette expérimentation cet été ?
Très intéressante. La construction s'est faite vraiment dans une très bonne ambiance. Ils étaient très nombreux à construire les prototypes. Et après, les visites qui ont été faites après dans le courant de l'été ont aussi très, très, très positives aussi.
Qui est venu visiter et pourquoi ?
On a eu du monde d'un peu partout. Des gens de Lyon, du sud de la France, de Nantes, de Paris, c'était assez surprenant. Et autrement, des familles aussi du local. Et beaucoup de questionnements de parents, comment est-ce qu'on pourra offrir un logement à nos enfants ? Et ça, c'est quelque chose qui est revenu extrêmement souvent dans les visites. Ouais.
Donc la question du prix, notamment, est importante.
Oui, parce que là, tous les quatre prototypes qui sont là, ils sont d'une valeur d'environ 12 000 euros. Main d'œuvre à rajouter après, bien sûr, mais bon, ouais, ça intéressait beaucoup de parents.
Ouais, 12 000 euros, c'est en autoconstruction, quoi,
ouais,
c'est ça ?
En autoconstruction, 12 000 euros. Ouais.
Et avec du matériau de récupération aussi.
Redite ?
Et avec du matériau de récupération.
Et parce que le modèle économie du hameau, ça serait, enfin, est-ce que les gens achèteraient quand même leur terrain ou est-ce que le terrain reste à la commune ?
Donc le terrain reste communal et donc il y a un bail emphytéotique qui va être signé entre le collectif, donc qui est une association, et la commune. Et donc tous les habitats sont hors sol. Donc si un jour donc, les habitats devraient démonter, le sol restera en l'état.
Il y a un bâtiment commun qui va être construit par la commune, avec douche sanitaire et cuisine, une cuisine spacieuse. Parce que les 7 habitants qui veulent vivre là ne veulent ni électricité ni eau courante dans leur propre habitation. Donc il n'y aura l'électricité et l'eau courante que dans le bâtiment commun.
Donc cet habitat, c'est ça, cette maison, enfin maison, petits habitats.
Oui, voilà, ce bâtiment commun rentrera après dans le prix global de location entre le collectif et puis la commune.
Ouais. Et donc 7 c'est un maximum ou peut y en avoir plus ou moins ?
7 c'est un maximum, ouais. Il y a 7 emplacements et un 8e pour recevoir du monde, s'ils veulent recevoir quelqu'un, ils vont construire un 8e, c'est pour recevoir, ouais. Autrement c'est 7 maisons.
Vous pouvez me décrire le terrain, enfin ses atouts, puis aussi sa situation dans la commune ?
Alors c'est un terrain qui est juste à l'entrée de l'agglomération, qui reste encore dans son état. Enfin, il est très arboré, il est sur 3 niveaux. Les enfants qui fréquentaient ici l'école du monde ont eu beaucoup de plaisir à fréquenter parce qu'il était vraiment, il n'est pas bitumé ni goudronné, il est très naturel. Et on constate en effet que les personnes qui viennent le visiter se sentent bien dans cet espace-là. Qu'il y aura un aménagement paysager qui sera fait ici dans l'espace-là. Et évidemment, l'intégration d'un potager est évidemment prévue, ainsi qu'un verger. Et dans le collectif, il y a un jeune qui a l'ambition de faire du maraîchage.
Maraîchage, donc, qui servirait aussi à fournir le restaurant, peut-être la Boule d'Or, il est en négociation. Ça serait là le maraîchage aussi, ouais. Ouais. Il y a un terrain à côté là, qui serait intéressant pour le maraîchage.
Au-delà des mignonnes petites maisons qui coûtent moins cher, il y a derrière le projet du hameau du Douric toute une façon d'aborder l'habitat.
Oui, un hameau léger, du coup, c'est le cœur de ce que défend l'association Hameau Léger. C'est une manière d'accéder à un habitat écologique qui, en fait, va chercher l'accessibilité financière et le côté collaboratif, donc de l'habitat participatif.
Maud de la Croix.
Et une dissociation de la propriété du sol, de la propriété du bâti, avec un terrain qui reste la plupart du temps communal, mais ça peut être d'autres types de propriétés, et qui est mis à disposition du collectif d'habitants via un bail emphytéotique, donc un bail très longue durée qui met l'accent sur le droit d'usage, et donc un changement de paradigme sur le regard sur le sol. Et les projets qui sont accompagnés actuellement sont pour la plupart portés en premier par la mairie et qui prend l'initiative du projet, des études en amont, avant de trouver un collectif qui va construire ensuite le projet dans le temps long.
Déplacer l'escabeau pour être plus à l'aise à guider la descente.
Ce reportage sur l'habitat léger à Comana en Finistère, il est à retrouver dans son intégralité sur radioévasion.net, une radio qui est membre, comme Canal B, de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Vous retrouverez ce reportage qui est d'un format en tout de 25 minutes parmi les actualités du site à la date du 14 septembre. Merci à Véronique pour ce partage. On va terminer ce tour d'horizon des luttes environnementales en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, direction Rostrenin en Centre-Bretagne pour rencontrer Jeannot Flageul. Alors Jeannot, il est sur trois pattes, ses deux jambes et puis une béquille depuis un accident sur sa ferme en 2009. Mais il reste un militant associatif infatigable avec une fibre pour l'entraide et l'environnement qui l'ont conduit jusqu'en Palestine. Morgane Large, journaliste à Radio Crèze-Brèze, une radio installée entre Guingamp et Rostrenin, a rencontré Jeannot un soir d'été près de son rucher. Reportage.
En fait, moi j'aime à dire que l'homme est sur Terre depuis 3 millions d'années et on a retrouvé des fossiles d'abeilles qui datent de 60 millions d'années dans la Baltique et près de 90 millions d'années dans le sud-est asiatique. C'est-à-dire qu'elles sont sur Terre depuis 30 fois plus longtemps que l'homme. Respect.
Pourquoi tu as des abeilles, toi, Jeannot ?
Mon grand-père en avait, mon père en a eu. Oui, avant c'était naturel, tout le monde avait deux ou trois ruches dans son jardin. Mais maintenant, celui qui a deux ou trois ruches, il a des soucis à se faire, quoi, parce que les deux ou trois ruches, il faut être hyper précis et hyper s'en occuper vraiment pour les protéger, quoi. Entre les néonicotinoïdes et le varroa, la pratique apicole est vachement importante.
Mais ça veut dire que maintenant, pour un amateur qui voudrait avoir 2-3 ruches, il faut quand même avoir une dose de connaissances et de technicité importante, beaucoup plus importante qu'autrefois.
Ah oui, complètement, oui. Avant, je me souviens, c'était une horreur, mais quand j'étais gamin, on tuait les ruches, on les souffrait, quoi. C'est-à-dire que les plus lourdes, c'était en fait les meilleures, celles qui avaient le plus emmagasiné, et c'est celles-là qu'on tuait.
Pour récolter le miel.
Pour récolter la ruche la plus lourde où il y avait le plus de miel. On tuait les meilleurs, en fait, tu vois, vraiment.
Tu voyages, tu te renseignes un peu sur les pratiques apicoles des régions dans lesquelles tu vas ?
Ouais.
Tu as été en Algérie il n'y a pas longtemps ?
Oui, en Kabylie.
Tu as été en Palestine, tu as été en Mongolie ?
Ouais. On est allé en Kabylie parce qu'il y a 2 ans, il y a eu des incendies énormes dans cette région de grande et de petite Kabylie. Des oliviers en particulier qui ont brûlé quoi, des milliers d'hectares. Et dans les champs d'oliviers, il y avait des ruches aussi, évidemment. C'est vraiment, ils ont un miel qui est connu et reconnu et de qualité. Et en Mongolie, en fait, ils en ont très peu parce que le climat est hyper rude, mais vraiment rude, quoi.
Et en Palestine, alors ? Tu es allé plusieurs fois ?
Ouais. Il y a quelques années, j'étais allé avec le groupe de la FPS Centre-Bretagne. On avait fait un voyage.
L'association France-Palestine Solidarité.
Hein. Ouais, c'est ça. On était allé
à El Aroub.
À El Aroub, parce que El Aroub est jumelé avec Carré. C'est à proximité de Bethléem, en gros. On est en Cisjordanie occupée. Et donc, une pauvreté absolue, quoi. Et quelques temps avant, j'étais tombé sur un article de deux femmes qui avaient développé un petit rucher à partir de quelques ruches d'abord. Et j'avais trouvé ça exceptionnel et super bien, quoi. Elles s'étaient formées. Et puis, avec le produit deux femmes. Ouais. Et en fait, l'argent leur servait à payer les frais de scolarité et d'université de leurs enfants. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider ces gens, quoi, dans ce camp ?
Parce que là-bas, c'est compliqué, l'agriculture.
Dans le camp, en fait, ils peuvent rien faire, en fait. Ils sont juste enfermés sur la zone qu'on leur avait donnée en 48, quand ils ont été chassés de leur terre et de leur maison. Et donc, ils n'ont pas de terre, ouais. Ils n'ont pas de terre, donc ils vivent.
Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de...
Très peu. Alors, à El Aroub, il y a des serres et ils cultivent des aubergines, ouais, quand même, ouais. Et donc, ben en fait, j'en ai parlé à des copains, mes enfants et avec tout le monde là, on a réussi à acheter deux ruches. Et donc, mon projet était d'aller là-bas et puis de leur transmettre, de leur apprendre, et en particulier aux filles.
D'autant que l'abeille a l'avantage de pouvoir passer les checkpoints, les frontières, d'aller butiner en Israël sans aucun problème.
Elles s'en foutent des frontières, quoi. Alors moi, j'ai pas pu y aller. Il y avait un projet de venue de quatre jeunes du camp des Laroubes en Bretagne. Ils n'ont pas pu venir et donc la FPS Centre-Bretagne s'est retrouvée avec un petit pactole qui était prévu pour recevoir et pour payer les frais de transport. Le conseil d'administration a dit « Eh ben écoute, on va flécher sur le projet de Jeannot, on va mettre de l'argent pour faire un vrai projet beaucoup plus substantiel ».
C'était donc d'emmener des essaims d'abeilles là-bas?
Non, pas les amener d'ici, parce que nos abeilles noires ici ne sont vraiment pas adaptées à ce climat là-bas.
Elles seraient mortes?
Ouais, elles ne sont pas adaptées. Et donc, d'acheter du matériel en Cisjordanie, occupé, avec des artisans là-bas. D'acheter aussi des essaims avec des apiculteurs palestiniens. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc il y a eu une formation, on avait demandé qu'il y ait autant de filles que de gars à être formés. On a payé un ingénieur agro là-bas pour faire une formation aux jeunes du camp. Voilà. Ensuite, il y a eu un extracteur d'acheter, il y a eu une dizaine de ruches, il y avait 10 ruches complètes avec essaim, avec os, avec grilles, enfin tout le matériel vraiment, quoi. Il y a eu vraiment un beau projet. Et donc, ce projet, il vit. Je sais que les ruches transhument, on parle aussi de transhumance, c'est-à-dire que quand il y a des floraisons, ces abeilles, ces ruches de El Haroub vont jusque Jéricho sur des palmeraies. Donc, ils ont deux récoltes par an, deux miellets par an. C'est des gens vraiment aimables, des gens pacifiques, contrairement à ce qu'on dit. Non, ce ne sont pas eux les terroristes, vraiment.
Il reste ce côté paysan, même à des gens qu'on a privés de leur terre?
C'est très compliqué, parce que la colonisation avance, et c'est choquant, c'est clair. Dans l'état actuel, en fait, il n'y a pas de place, ils n'ont pas de place dans leur pays, quoi. Ils n'ont pas de place, en fait.
Pas d'avenir?
Ils vivent au quotidien, ils sont heureux d'être vivants, de vivre, en fait, heureux d'être... Il y a une résilience assez incroyable d'être privé de leur terre, prisonnier chez eux.
Ouais. T'es retourné plusieurs fois en Palestine, t'as un petit peu peur qu'on te laisse plus passer au bout d'un moment, c'est ça?
Ouais. Alors,
est-ce qu'on arrive où quand on prend l'avion pour aller en Palestine?
Alors, le plus simple, c'est d'atterrir à Tel Aviv.
Et on dit « je vais en Palestine », tout ça, à la douane, ou on ment?
De plus en plus, non, il faut planquer, il ne faut pas dire « la Palestine n'existe pas », en fait, pour les autorités israéliennes. Ouais, il faut mentir, on va faire du tourisme, on peut être rejeté, refoulé, c'est déjà arrivé.
Ouais, c'est une volonté de les invisibiliser ou...
Complètement, la Palestine n'existe pas. Et puisqu'il s'agit de prendre ce territoire-là et qu'ils y arrivent, ouais. C'est une colonisation réelle, ouais, réelle, mais vraiment, quoi. Ils parlent de settlements, des colonies qu'ils créent, qu'ils valident. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'ahurissant, quoi. C'est difficile à concevoir, quoi. Il faut vraiment aller voir sur place et c'est un autre monde, quoi. Vraiment un autre monde.
On dit les colonies pour les abeilles aussi.
Ah ouais, mais celles-là sont belles.
Tu voulais me montrer quoi là?
Du romarin de Jérusalem.
T'as ramené du romarin de Jérusalem?
Ouais.
Raconte.
J'ai pris une bouture en fait là-bas.
Ouais. Et tu la multiplies?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Il est palestinien.
Bah, ouais.
Merci à Morgane Large de RKB, Radio Crèze-Brèze, pour ce reportage que vous venez d'entendre. RKB, une radio bilingue qui émet en breton et en français et que vous pouvez retrouver en ligne sur rkb.bzh. Vous êtes toujours dans l'émission d'Info Locale qui se termine, c'est une habitude, avec une ou des recommandations. Aujourd'hui, on annonce deux rendez-vous pour occuper votre samedi à Rennes. On commence par aller à l'écomusée de la Bintinet de 14h à 18h qui organise sa désormais traditionnelle foire à la basse-cour. Les visiteurs pourront acheter sur place poules, pigeons, oies, canards, lapins et dindons, et avec sur place des personnes qualifiées pour vous conseiller, notamment l'Union des associations avicoles de l'Ouest. Pour plus d'infos, il y a le site écomusée-rennes-métropole.fr. Et puis après ça, on prend la direction de l'ancienne école du Faux-Pont, tout près de la rue Saint-Hélier, toujours à Rennes, pour le concert caritatif de Cœur Résistant. Cette association, elle y propose une aide alimentaire à destination de plus de 70 personnes à la rue, ainsi qu'un espace de détente. Des temps de cuisine et des maraudes en ville sont aussi menés, avec des bénéficiaires de plus en plus nombreux. Et en parallèle au village alimentaire, cette fois sur le quartier de Beaulieu, des paniers alimentaires sont distribués 6 jours sur 7 aux personnes en situation de précarité, ce qui représente entre 150 et 200 foyers chaque jour qui sont accompagnés. Ça fait beaucoup de boulot pour cette association, confrontée à la baisse des financements publics, d'où l'idée d'organiser un concert caritatif samedi 30 septembre pour lever des fonds afin de poursuivre ses activités. Au programme de 14h jusqu'à minuit 30, des jeux, des échanges, un espace buvette et restauration, et puis des concerts. À l'affiche, on retrouvera Thalea, un trio de musique irlandaise, Hawaiian Club, trio swing et musique hawaïenne, Paroxysme, là, de la musique entre folk et rock, Faigo et son reggae roots et dub, Olkan et la Vipère Rouge pour un set techno-oriental, et puis Mac et Wester pour finir sur de l'électro. Cet événement est à prix libre. Plus d'infos sur le site coeur-resistant.org.
Sois pas désolé, tout est irrationnel, une autre vérité se cache derrière le soleil.
La reine, c'est terminé. Une émission d'Info Locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.